Oui, alors nous sommes de retour avec Maître Jean-François Gay. Jean-François, il y a vraiment beaucoup d'appels. Oui. Alors, on va aller directement au téléphone pour espérer, bien sûr, prendre le plus d'appels possible. Alors, nous allons commencer avec Madame José.
Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir, José.
Oui, j'ai une question pour une voiture usagée. Ce serait la première voiture pour mon fils.
Oui.
C'est une Pontiac Vibe 2006. 113 000 kilos et au compteur avec une manuelle.
OK.
Elle la vend à 2500. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez.
Moi, je vous dirais, là, pour un véhicule de 2006, le véhicule va avoir plus que 15 ans, on s'entend. Alors, c'est sûr qu'il faudrait faire inspecter le véhicule. 113 000 kilomètres, m'avez-vous dit?
Oui.
Oui. Ça, c'est sûr que moi, à votre place, je ferai vérifier le véhicule, puis je demanderai au garagiste là de faire des vérifications si le kilométrage lui semble exact. C'est plausible, 113 000 kilomètres.
Ben, c'est des gens qui sont âgés, alors c'est pas mal sûr. C'est quelqu'un que c'est l'ami de quelqu'un. Alors,
okay.
c'est pas falsifié, là, je suis pas mal sûr.
Bon, OK, d'accord. Puis, c'est un véhicule qu'eux ont acheté neuf à l'époque?
Oui, exactement. Ils ont aussi quatre pneus neufs d'hiver aussi.
OK. 2500, écoutez, c'est relatif. Pour quand on est rendu avec des véhicules de cet âge-là, ça dépend de la condition du véhicule.
Il n'y a pas de rouille. La seule chose qui ne fonctionne pas, c'est la climatisation.
Bon, mais alors, informez-vous, parce que ça peut coûter plus que 1 000 probablement pour faire réparer ça.
D'accord.
2500, ça peut être correct, comme je vous dis, là, dépendamment de l'état du véhicule. Vous pourriez peut-être marchander pour acheter moins cher que ça, parce que 2500, d'après moi, ça ne vaut pas plus que ça non plus.
Non?
Bon.
Non. Ben, je vous remercie beaucoup.
Ça fait plaisir.
Au revoir.
Parfait, madame. Merci d'avoir téléphoné. Nous allons parler maintenant à monsieur, on est rendu où? Monsieur Belmont, je crois.
Oui. Salut à vous deux.
Oui, bonjour, Belmont.
Oui. Ma question, c'est pour Volvo X90 et c'est un véhicule rechargeable hybride. Alors, j'aimerais avoir l'impression de monsieur...
Sur quel modèle, monsieur, on a mal compris, là?
XC90 Volvo. T8.
Un XC60?
C'est la coupe? Oui, XC60 T8, c'est un véhicule...
OK, XC60 T8. D'accord, c'est oui, T8. Donc, c'est un véhicule hybride rechargeable, si je comprends bien.
Oui, oui.
OK. Est-ce que vous regardez pour un véhicule neuf?
Oui, c'est un véhicule neuf.
OK. Ben, c'est sûr que si on regarde, pour situer les gens, le XC60, ça, c'est le VUS là, qui se classe entre le XC40 et le XC90 là, chez Volvo. Et c'est parce que c'est pas donné. Moi, je vous dirais, là, vous achetez un hybride parce que vous êtes convaincu au niveau de l'environnement, tout ça, parce que vous allez payer à peu près 10 000 $ de plus pour avoir un hybride rechargeable par rapport à un moteur à essence conventionnel.
Est-ce que ça vaut la peine? Parce qu'au niveau de la consommation, au niveau de la fiabilité?
Bien, la fiabilité, moi, je ne pourrais pas me prononcer. Il n'y a pas de problème jusqu'à maintenant là, pour les hybrides rechargeables chez Volvo, à ma connaissance. Dites-vous qu'en mode électrique, là, vous allez peut-être parcourir entre 35 et 40 km en mode électrique. C'est possible que vous, ça soit suffisant, dépendamment du kilométrage que vous faites là, dans une journée.
Oui.
Mais cela dit, si vous faites, si vous arrivez au travail, vous pouvez brancher le véhicule peut-être au travail puis revenir à la maison en mode électrique. Ça peut être intéressant. Sauf que moi, ce que je trouve, ce qui est un bémol là, à faire là, avec Volvo, c'est le coût de cette option-là, l'hybride rechargeable, c'est pas donné. C'est un pensée-y bien.
D'accord. Ouais. D'accord. Merci.
Parfait, monsieur. Merci d'avoir téléphoné. C'est vrai qu'elles sont belles, les Volvo, mais elles ne sont pas données. N'est-ce pas, Jean-François?
C'est pas donné.
Oui. J'ai gentil de pas m'ostiner. Nous allons parler maintenant à M. Jonathan. M. Jonathan? Monsieur, il est parti. M. Pierre?
Oui, bonsoir, messieurs.
Oui, bonsoir, Pierre.
Oui, ben c'est une question un peu juridique. Moi, j'aime faire des voyages en été en système VR, autonome.
Oui.
Puis je suis très respectueux, d'ailleurs. Mais il m'arrive de me stationner ici et là, effectivement, pas nécessairement dans des campings. Est-ce que le couvre-feu, pour moi, qui est dans mon motorisé, à 9h30, 10h, pourrait m'amener, par exemple, à avoir une contravention parce que je serais considéré comme en dehors de ma résidence principale?
Mais là, on parle dans quel endroit que vous voulez vous stationner? Là,
ça pourrait être la côte nord. Je pensais de monter à Havre-Saint-Pierre ou bien m'en aller sur la côte nord de la Gaspésie, dans les petits villages. Quelquefois, je me stationne dans un camping. Mais si les campings sont trop utilisés, sont pleins, ben je peux m'installer des fois à différents endroits discrets. Est-ce que je pourrais avoir des problèmes avec les couvre-feux?
Bien, en tout cas, on peut espérer que les couvre-feux vont être relevés bientôt. Mais là, c'est une question, vous êtes dans une zone grise, là, vous. Là. C'est une question à 100 piastres, comme on dit. Là.
Oui, c'est ça, exactement.
C'est embêtant, là. Il faudrait peut-être que je fasse des vérifications, que j'aille le texte de loi devant les yeux, que je n'ai pas. Je vous dirais qu'en théorie, là, si vous avez, peu importe, mettons, vous stationnez dans un endroit où vous n'êtes pas chez vous. Je sais pas, moi, un stationnement d'un Walmart, hein, on s'entend que les Walmart, à certains endroits, à Havre-Saint-Pierre, il n'y a pas de Walmart, là, mais admettons, je sais pas, moi, vous êtes dans un endroit qui n'est pas attitré pour les VR, vous stationnez là, vous êtes à l'extérieur, vous faites un repas, quelque chose comme ça, sûr que vous êtes dans une zone grise. Les policiers pourraient peut-être vous donner une contravention.
Il faudrait que je sois vraiment « by the book », là.
Oui, mais à ce moment-là, ça serait quoi vos moyens de défense, tu sais? Parce que, moi, vous donner un exemple. Moi, cet hiver, j'ai parlé avec des motoneigistes. Et les gens avaient perdu leur trace. Pas leur trace, mais avaient perdu le chemin. Fait qu'ils ont fait un grand détour. Il y avait un pont de fermé, c'est vrai. Il y avait un pont de fermé. C'était à fond des neiges. Ils ont dû emprunter un autre sentier. Puis les policiers les ont arrêtés. Ils n'avaient pas respecté le couvre-feu, puis ont eu des contraventions.
Eh ben.
C'est sûr que ces gens-là vont plaider non coupable. Ils vont devoir aller devant le tribunal pour s'expliquer. Puis des questions que le juge va sûrement poser, c'est est-ce qu'il y avait d'autres alternatives que de tu sais, aurais-tu pu s'arrêter, attendre jusqu'à 5 heures du matin que le couvre-feu soit levé, parce que des gens seront fait arrêter à minuit le soir. Dans votre cas, monsieur, là, c'est bien dur pour moi de répondre à tout ça, parce que... C'est un pouvoir discrétionnaire que les policiers ont à ce moment-là. Ouais.
Parce que moi, j'ai appelé justement. Là, vous êtes celui que j'appelle, mais je n'ai pas le premier. Parce que j'ai appelé la Sûreté du Québec et on n'a aucune réponse de ce côté-là. Parce qu'eux autres, ils veulent pas se mouiller. Là. Ils veulent dire, eux autres, là, tout de suite, là, non, t'as pas le droit. Mais j'ai toujours pensé qu'il faut quand même faire un petit peu, peut-être plus de recherche que le nom total et final. Quand ça t'est donné par un policier, c'est peut-être pas nécessairement final. Là. Fait que c'est pour ça que je tenais à avoir un avis, je voudrais dire, un peu plus nuancé.
Oui, parce que l'affaire là-dedans, c'est qu'une fois que la contravention est émise, là, mettons qu'on vous remet une contravention à vous, votre conjointe, peu importe, des membres de votre famille, des amis, si vous êtes en groupe, vous allez devoir contester tout ça. Puis en plus, vous allez devoir aller dans le district où la contravention va être émise. Ça fait que si vous allez à Havre-Saint-Pierre, qui est à combien d'heures de route de Montréal? Je ne sais pas, 12, 15, 20 heures à peu près? Là.
Oui.
Bon, si ça arrive dans ce coin-là, admettons, ben, vous allez être obligé éventuellement d'aller vous défendre au palais de justice ou à la cour municipale de cet endroit-là.
Bien, monsieur, vous avez Jean-François, il aime ça se promener en auto.
Mais ce que je fais, là, ce que j'ai déjà fait, parce que c'est pas la première année, là, c'est que, mettons que j'arrive, par exemple, dans le New Hampshire, ça peut être aux États-Unis, là, puis je vais voir directement le gérant, par exemple, d'un supermarché, puis j'explique la situation telle quelle. Puis assez souvent, j'ai des permissions, moi, pour me stationner à un endroit, n'importe quel, là. Ça peut être un restaurant, ça peut être une épicerie. Puis là, à ce moment-là, ben, je me sens plus en sécurité que si j'arrive à quelque part, je parle à personne, je me stationne là, je peux avoir des problèmes.
Bien, c'est sûr qu'au New Hampshire, là, concernant le couvre-feu, tout ça, je ne sais pas où ils en sont rendus par rapport à nous, mais si vous partez cet été, il faut espérer qu'il n'y aura plus de couvre-feu à 9h30, hein?
Voilà.
Et c'est ça, ça va régler votre problème. Par contre, il y a un couvre-feu, Moi, je vous dirais, même si vous avez la permission, admettons, je ne sais pas, d'un épicier de vous stationner à Havre-Saint-Pierre ou ailleurs, ben ça vaut ce que ça vaut. Parce que la loi, là, si je la résume, là, si je me rappelle bien, là, devait être chez vous. Hein? C'est pas de quitter le domicile. Donc, à moins d'avoir une autorisation spéciale, là. Mais moi, à votre place, là, dites-vous que vous avez appelé la Sûreté du Québec, on vous a donné des informations. Je pense que c'est eux autres qui gèrent ça. Donc, fiez-vous à ce qu'on vous a dit, là. Soyez patient. Ouais.
Et vous me donnez une idée, là. Je pourrais même, avant d'arriver à tel endroit, m'informer. Je vais peut-être faire ça, là. Je vais m'informer à Havre-Saint-Pierre, parce que je connais. Ben, là, je disais ça comme exemple, là. Mais de dire, moi, j'ai l'intention d'aller à Havre-Saint-Pierre. Qu'est-ce que vous pensez que je pourrais aller m'installer, là? Puis je vais bien voir qu'est-ce qu'ils vont me répondre.
Réservez vos places d'avance, là, dans les campings.
Ça serait ça, là, peut-être que je vais faire pour me rassurer.
Reste à savoir si les campings sont ouverts aussi, là, je sais pas.
Ben là, je sais qu'en Gaspésie, Passe-Pébiac, là, ouvre le 15 juin, là. Okay. Parce que j'ai fait des réservations, moi, là. Je fais de l'autonome, mais en même temps, motorisé, là, on a besoin de remplir l'eau, puis on a des réservoirs à vidanger, là, puis ça, pour vidanger ça dans des campings, ou bien dans des endroits, dans des villes qui offrent justement les stations de vidange, là. Ouais. Mais à toutes les...
Parfait, monsieur. Alors, ben, on va vous souhaiter de bonnes vacances en espérant que vous n'ayez pas de problème. On doit malheureusement s'arrêter. Ben, merci à vous et passez une très bonne nuit. Merci, Jean-François. Maître Gay, je m'excuse pour les gens qui sont en ligne. On doit s'arrêter. On se reprendra la semaine prochaine. Ben, merci, Jean-François. Bonne semaine.
Bonne semaine.
Salut, merci.